mamá.
Sí, hay que quitar con el complemento de...
Perdón, yo ya no estaba
escuchando tu cobre.
Sí.
Si tu veux, juste.
Là, hein. Tu me tournes l'oreille, ça y est, à cette oreille-là. Ça tient. Ça va. De toute façon, je vais te faire un dessin. Vas-y, que.
Oui. Bonsoir, ça marche bien. Est-ce que tout le monde m'entend? C'est bon? Bien. Bien, merci d'être venu. Je vous appelle au nom de l'équipe Alter et de la section Qigong du Foyer Gélasien. Je vous souhaite une bonne année ici et une bonne santé. Très important, on va en parler toute la soirée, donc on peut commencer. Oui, André nous propose, donc André Rousseau, vous connaissez, le docteur André Rousseau vous propose un cycle de 4 conférences pour approfondir 3 thèmes sur l'alimentation, sur le Qigong et sur le Feng Shui. Donc la première conférence est liée à la saison hiver, ça tombe bien, on est encore en hiver, depuis très longtemps. La prochaine conférence sur le printemps aura lieu à Échiel. Si vous voulez noter la date, c'est le 11 avril. On le rappellera à la fin de la soirée, si vous voulez. Et ensuite, il y aura une autre séance qui n'est pas encore fixée pour les 2 autres saisons, été et automne. Voilà. Donc, je vais faire une petite introduction justement sur ces 3 sujets là qui concernent la santé, qui correspondent à la médecine préventive et personnalisée, je dis préventive en opposition, enfin, en complément de la médecine curative, quoi, quand on est malade, quand on est blessé, on va à l'hôpital, là, c'est vraiment pour se préparer, se renforcer tout notre système immunitaire, entre autres, préserver notre santé au maximum, et personnaliser, parce qu'on n'est pas tous égaux ou égales devant la maladie, on a chacun un capital santé différent ou de part. Et effectivement, il peut y avoir des virus qui passent, et on n'est pas touché, ou d'autres personnes qui n'ont pas touché, qui passent, c'est étonnant, mais c'est comme ça, c'est le terrain. L'an dernier, on avait fait... Ah, je parle trop fort, ou c'est moi qui rapproche le micro. L'an dernier, on avait fait alimentation et santé, avec André, toujours par le lien entre une bonne alimentation, alors... Une bonne alimentation, on avait une définition, sans parler de gros mots, on avait parlé d'une alimentation saine, fraîche, nutritive, de proximité et de saison. Alors, il y a le raccourci, si on parle de bio à ce moment-là, mais un bio, c'est pas très précis. Hein. Donc là, avec une alimentation de qualité, on peut espérer préserver, bien sûr, notre santé. Et ça va être le premier thème de ce soir, où on va approfondir ça, et c'est quelque chose qui est important, parce que dans les temps anciens, déjà chez les Grecs, il y avait Hippocrate, le viticulteur, le charmant d'Hippocrate. Ah, je vois. Eh bien, qu'est-ce qu'il avait dit, Hippocrate, déjà? Que l'aliment, c'est ton médicament. Alors, un aliment, soit un bon médicament, hein, sans effet secondaire, c'est vrai que c'est quand même quelque chose d'important. Et même Hippocrate, il se fondait sur des recherches de la médecine traditionnelle chinoise qui elle, a observé pendant des millénaires tout ce qui s'est passé au niveau du cosmos jusqu'à l'intérieur du corps humain, pour voir qu'en fait, il y a plein d'interactions plein d'éléments qui interagissent, en fait, que ce soit des aliments, mais il y a d'autres choses que j'avais notées, j'ai pas mes lunettes. Ah voilà, donc l'environnement, enfin l'air, les lieux, les émotions, le stress. Et aujourd'hui, avec les technologies modernes, on a aussi les ondes électromagnétiques, tout ce qui est Wi-Fi, téléphone portable. Donc à ça, vous pensez à rallumer votre téléphone en partant. Donc tout ça, ça concourt à la bonne santé ou au développement d'une maladie. Ça dépend. C'est un effet cocktail, quoi, tout est lié. Et pour expliquer l'interaction de tous ces éléments, en fait, les Chinois parlent de la théorie de chaque élément. Pas mal, hein? Allez. On va approfondir tout ça, hein. C'est juste les mots de ce qu'on a au niveau de l'alimentation. Le deuxième thème, le Qigong, bon, il y a des gens bien plus compétents que moi ici, là, qui sont depuis plus longtemps, ils ont déchiré. Je remercie d'ailleurs Mme Grosson d'avoir amené les personnes de son club. C'est chez eux qu'on va d'ailleurs pour la prochaine séance. Enfin, pas directement chez elle, mais la salle des fêtes déchirée à côté de la mairie. Qu'est-ce que je suis perdu, moi? Qigong, ouais, Qigong. Moi, ce que j'ai aimé là-dedans, c'est la prise de conscience de l'énergie qui nous entoure. Cette prise de conscience est d'avoir percevoir un autre fonctionnement de l'organisme. Et au-delà encore de ça, c'est de dire qu'on peut prendre en main notre santé. Et pour moi, c'est le plus important. Et là, je dis un grand merci à André. Donc le troisième point qui va être développé, c'est le feng shui. Ce que j'ai noté, sur une définition sur Internet, ça permet d'harmoniser l'énergie. Alors, harmoniser l'énergie, là on parle d'un lieu. Plus, hein, on n'est pas dans le corps humain, on est au niveau de l'espace, une habitation, d'un terrain, chose comme ça. Donc là, on va voir l'influence d'autres choses encore. Et pour approfondir tout ce sujet, donc on va le faire saison par saison. Ça va permettre de voir en fait l'influence du ciel à ce moment-là sur chaque élément. Je crois que je vais te donner la parole, André. Merci. On se retrouve dans un quart d'heure, une heure pour la séance de questions. Et normalement, vers 2-3 heures du matin, on se quittera. Parce que Météo France n'a pas vu la neige.
Bien, merci Alain. Est-ce que ça s'entend bien, moi, je... Hein? Voilà. Bon, c'est bon, apparemment. Donc après cette introduction d'Alain, il aurait dû continuer, en fait, c'est très bien. Moi, ça me plaisait bien ce qu'il disait là. Et alors, on a prévu donc de parler de la belle hiver. Hein? Bon, puis on est en hiver quand même. Alors l'hiver, il faut d'abord replacer un petit peu les saisons. Je vais faire un rappel sur les saisons, sur les dates. Comme ça, on se comprendra un petit peu mieux. Donc, les saisons solaires, ce ne sont pas les mêmes saisons que l'on voit sur le calendrier des PTT. Donc, le calendrier des PTT nous dit que l'hiver commence le 21 décembre, ou le 22 décembre selon les années. En fait, c'est le milieu de l'hiver. C'est le moment où le soleil est au plus bas, hein, c'est le moment où le soleil est en bout, il est à la fin de sa course, et ensuite il va remonter. D'ailleurs là, à la date où on est, le soleil il a déjà commencé à remonter. Donc on est déjà dans la deuxième partie de l'hiver. L'hiver solaire, il débute le 7 novembre, et il se termine le 5 février. Voilà. Ça c'est l'hiver solaire. Ensuite, la saison d'après, tout le monde la connaît, c'est le printemps, hein, c'est ça, je ne me trompe pas. Le printemps, donc il commence le 5 février, lui, et le printemps se termine le 6 mai. Et le milieu du printemps, c'est l'équinoxe de printemps, c'est le 21 mars, ou le 22, selon les heures, selon les années, il y a des heures différentes, donc ça peut tomber, ça peut sauter d'une autre journée. Donc ça c'est le printemps. Ensuite, à partir du 6 mai, on a l'été. Donc l'été, c'est début de 6 mai. Maximum de l'été, donc c'est le maximum du soleil. Vraiment, le soleil est au zénith, complètement. Et au plus haut, c'est le 21 juin. Hein? Donc c'est le maximum de l'été. Et non pas le début de l'été, comme on voit sur le calendrier. Donc le maximum de l'été, et qui se termine le 6 août. Et du 6 août au 7 novembre, eh bien, on va avoir l'automne. Avec l'équinoxe d'automne qui se situe le 21 septembre. Donc on a, comme ça, on a donc quatre grandes saisons. Mais pour les Chinois, il y en a cinq. La cinq saisons, parce que on ne passe pas d'une saison à l'autre brutalement. Hein, si le 4 février, on est en hiver, le 5 février, on est au printemps. Donc on ne va pas passer brutalement comme ça. Et les Chinois se sont rendus compte par des observations, et ça c'est au fil des millénaires. Alors les millénaires, c'était avant 500 avant Jésus-Christ. Donc 500 avant Jésus-Christ, c'est le moment où ils ont vraiment édité, si on peut dire, hein, structuré les colons. Donc environ 500 avant Jésus-Christ. Mais il se basait sur des observations qui dataient de millénaires avant. Hein, donc on est quand même à quelques millénaires, on en est à 4 ou 5 millénaires, on ne sait pas. Hein, donc, et ces observations-là ont donné lieu à ce qu'on appelle la théorie des 5 éléments, qui, dans laquelle on a donc la description aussi des 5 saisons. Et la période qui précède le changement de saison, donc là par exemple la période qui est juste avant le 5 février, c'est une période de 18 jours qui va donc commencer samedi. Hein, et cette période de 18 jours, on l'appelle l'intersaison. Donc cette intersaison nous permet de passer tout doucement à la saison suivante. Et en même temps de préparer cette saison pour que les organes qui sont la caractéristique de la saison puissent être déjà un peu en accord avec la saison pour vraiment capter tout de suite l'énergie correspondant à la saison. Alors cette saison, ils les ont trouvés à partir du mouvement des étoiles. Hein, ils se sont rendus compte qu'il y avait des groupes d'étoiles qui passaient dans le ciel. Alors ce sont des groupes. Je ne suis pas très compétent pour vous parler des groupes d'étoiles. Mais ces groupes d'étoiles passaient, circulaient, et donc à certaines périodes, un groupe d'étoiles donnait lieu à l'apparition d'une saison. Voilà. Et donc ces groupes d'étoiles passent toujours, on les a le jour, la nuit, on les a en permanence. Et donc ils donnent lieu à tout ça. Ceci a permis de codifier en même temps toute la médecine chinoise, mais aussi le Qigong et surtout le Feng Shui. Hein, le Feng Shui, c'est l'énergie des maisons, et aussi l'énergie des terrains. Le feng shui, c'est aussi l'énergie des cimetières. Car pour les Chinois, il y a aussi le feng shui des cimetières. Bon, ça c'est un domaine que je ne pratique pas, le feng shui des cimetières, mais pour les maisons, c'est quand même quelque chose de très intéressant. Je trouve souvent très dommage de voir certaines constructions qui ne correspondent pas du tout à la santé des gens. Hein? Quand je regarde les constructions derrière chez moi en ce moment, c'est un petit peu bizarre, quoi. Donc je me dis, les personnes qui vont habiter là, ça va quand même poser quelques questions. Au niveau de la santé. Pour certaines maisons, hein. Voilà. Alors je vous touche un petit mot tout à l'heure du Feng Shui à la fin, hein, pour vous indiquer en particulier là où il faut aller en vacances cette année et les secteurs où il faut faire les travaux. Hein? Voilà. Et puis là où il ne faut pas aller en vacances. Alors, à chaque saison correspond un climat. Vous le voyez bien, en ce moment, on est en hiver. La caractéristique de l'hiver, c'est le froid. Et le froid, il doit exister en hiver. C'est vrai qu'au cours de Qigong, j'ai souvent quelque chose qui fait rire. Hein, prenez le froid, mais ne prenez pas froid. Il faut prendre le froid. Ce matin, je faisais du Qigong à Vargas, et là, il faisait moins 4. Hein, et on est allé dehors pour prendre le froid. Parce qu'en plus, il y avait un beau soleil, c'était magnifique. Et donc, on a pris le froid ensemble pour alimenter un organe en particulier, qui est l'organe de la saison, c'est le rein. Donc le rein, c'est l'organe de la saison. Et depuis le début de l'hiver, donc depuis le début, depuis le 7 novembre, j'ai compté les jours de froid qu'on a eu. On en a eu peut-être une semaine de froid, et encore, en additionnant tous les jours, c'est... Donc, qu'est-ce qu'on va obtenir cette année? On va obtenir un manque d'énergie des reins. Parce que une fois que la saison va être passée, on ne pourra plus bénéficier de l'effet des planètes, hein, de l'action des étoiles, hein, l'action des étoiles sur l'organe. Et donc l'organe, bien, il va s'être rechargé un petit peu en énergie pendant la saison, un petit peu, mais pas suffisamment cette année. Donc, toutes les actions des reins vont être déficientes. Et le rein, c'est un organe extrêmement important, donc j'insiste un petit peu dessus, c'est l'organe qui... On sait que le rein fabrique l'urine, hein, donc il fabrique l'urine, donc ça, c'est courant. Mais le rein fait beaucoup plus que ça. C'est lui qui apporte l'énergie aux os et qui assure la structure des os. Si on a une fracture, par exemple, il faut que l'énergie des reins soit bonne. Si elle est insuffisante, on va avoir un retard pour consolider la fracture. Et certaines personnes mettent beaucoup de temps, et les chirurgiens, ils s'arrachent les cheveux avec ça. Parce que certaines personnes vont mettre le double, le triple de temps à consolider une fracture. Et alors ils vont vous faire prendre du calcium, plein de trucs, ça ne sert à rien. Rien du tout. Ce qu'il faut, c'est surtout agir sur les reins. Donc tout à l'heure, on verra comment on agit sur les reins. Donc l'action sur le rein est très importante pour ça. Donc ça, c'est pour les os. Mais par exemple, l'ostéoporose, l'ostéoporose, qui est une fragilité de l'os, hein, c'est l'os qui a, dont la structure diminue, ça devient un peu poreux, et bien, dans l'ostéoporose, c'est le rein, l'énergie. C'est pareil. Et vous aurez beau prendre des tonnes de calcium, vous n'aurez jamais d'amélioration de l'ostéoporose. Calcium ne sert à rien, sauf à encrasser l'intestin. Donc vous voyez, c'est quand même quelque chose d'important. Le rein a aussi d'autres actions, c'est le rein qui nous permet d'avoir une énergie forte au niveau du cerveau et de la moelle. C'est aussi lui qui donne l'énergie à toutes nos glandes endocrines. Donc la thyroïde, le surrénal, les testicules, les ovaires, etc. Toutes ces glandes sont sous la dépendance de l'énergie des reins. Si quelqu'un a eu un problème de thyroïde dans la salle, là, ce sont les reins d'origine des problèmes de thyroïde. Et puis toutes les glandes génitales, c'est aussi les reins. On voit que l'énergie des reins, c'est considérable. C'est absolument quelque chose de fantastique si on regarde bien tout ça. Et donc on a besoin de vraiment de solidifier, de consolider cette énergie des reins. Et le rein, en hiver, pour se refaire une énergie forte, a besoin du froid. Donc voilà pourquoi je dis, il faut prendre le froid. sans prendre froid. Donc prenons le froid, et là il faut en profiter. Là vraiment il faut en profiter parce que c'est peut-être le dernier jour où on va pouvoir avoir du froid. Après, si on n'a pas pris le froid, l'énergie du rein n'a pas pu remonter suffisamment, et donc on va en pâtir le reste de l'année. C'est-à-dire qu'on aura une fragilité dans tout ce que je viens de décrire là. Vous voyez, c'est quand même quelque chose d'important. Alors après, c'est le Qigong qui va nous permettre de compenser ça. Il va nous permettre de compenser, parce qu'il va y avoir, on va faire un certain travail en Qigong qui va nous permettre d'abord de réveiller les reins, de les chauffer, de les stimuler, etc. Et vraiment de faire remonter cette énergie des reins, mais contrairement à ce qu'on aura dans la saison, où l'énergie des reins, une fois qu'elle est remontée dans une saison, elle est remontée pour tout le reste de l'année. C'est-à-dire que l'énergie des reins, à ce moment-là, si elle était suffisamment remontée là, début février, elle serait remontée pour jusqu'au 7 novembre. Tandis que si elle n'est pas bien remontée, si pour le moment, moi je le vois au niveau des personnes que je rencontre, elle n'est pas remontée, cette énergie des reins, eh bien il va falloir tous les jours pratiquer des exercices pour le rein. Vous voyez ? Autrement, ben, on a toutes les chances de se payer une maladie quelconque, une maladie, problème au niveau des seins, des problèmes au niveau des thyroïdes, des ovaires, des os, y compris le cerveau, parce que le cerveau il a quand même aussi des fragilités. Ça va, vous comprenez ce que je veux. Comme ça, vous entendez bien, en fait. Bon. Je suis pas habitué avec ce machin là. Mais apparemment, c'est pratique quand même. Donc voilà pour cette énergie des reins qui est quand même importante. Alors, donc j'ai dit tout à l'heure, l'énergie de l'hiver, c'est le froid. C'est un peu chic. C'est le froid. Et ce froid, donc, il est extrêmement important. Le mouvement de l'énergie pendant l'hiver, ce mouvement de l'énergie, il n'est pas constant toute la journée. Je m'explique. Dans une journée, le soleil fait aussi sa course. Une journée, c'est un petit peu comme une année au niveau des saisons. Le soleil va faire sa course. Et bien l'hiver, la course du soleil est bien moins grande que l'été. Puisque l'hiver, le soleil va se lever aux alentours de 8h du matin et il va se coucher aux alentours de 17h. Donc la course du soleil est bien plus courte. Et les Chinois ont remarqué, puisque eux, ils ne parlent pas sur 24 heures, ils vont de 2 heures en 2 heures. Donc on a 12 heures, mais les 12 heures chinoises représentent à chaque fois 2 heures. Donc ça fait 24 heures au total. Et le mouvement de l'énergie par rapport au soleil donne également une action sur les organes. Alors, une action sur les organes, et de 2 heures en 2 heures, on va passer d'un organe à l'autre. Alors, si vous voulez, je vais vous indiquer les horaires du rein. Donc, le rein, son horaire, c'est entre 17h et 19h. Donc, il est sur 2 heures. On parle en heure solaire. C'est-à-dire que, il faut rajouter une heure, pour parler en heure de notre montre. Donc en fait, au lieu que ce soit 17h-19h, c'est 18h-20h. Voilà. C'est l'heure où le rein va prendre l'énergie correspondant au passage des étoiles. On est toujours dans le même système. Donc c'est un horaire très important. Donc c'est pas idiot de se coucher par là en ce moment. Parce que le rein, ce qu'il aime, c'est la position allongée. ce qui aide le rein à remonter son énergie, c'est la position allongée. Peu importe qu'on dorme ou qu'on ne dorme pas, il aime la position allongée. Quelqu'un qui me dit, moi par exemple, voilà, moi je suis fatigué, parce qu'il y a 36 sortes de fatigue. Hein, des fatigues, il y a autant de personnes, autant de sortes de fatigue. Et mais quelqu'un me dit, voilà, moi je suis fatigué, toute la journée je me traîne, etc. Je ne pense qu'à me coucher. Et je sais que c'est l'énergie des reins qui est basse. Parce que s'il se couche, ça l'améliore. Et la semaine dernière, je voyais quelqu'un en consultation qui me disait, eh bien, quand je rentre du travail à 18h, je me couche. Et je me couche environ pendant 2 heures, je ne dors pas, mais je me couche. Et après, je peux préparer à manger, voilà. Si quelqu'un dans l'énergie des reins, et on râle les pâquerettes. Hein, c'est sûr. Bon, il y a d'autres signes aussi, mais ça, c'est significatif. Et quelqu'un qui me dira, moi je suis fatigué, mais quand je suis fatigué comme ça, je prends mes chaussures et je vais courir. C'est pas l'énergie des reins, ça. Hein? Ça, c'est l'énergie du soi, qui est trop basse. La personne, à ce moment-là, elle a besoin de bouger pour se défatiguer. Et vous avez des personnes comme ça, que vous pouvez rencontrer, qui peut-être que dans la salle, qui pour qui ça répond aussi à ce qu'ils sont. C'est pas anormal, hein, c'est pas parce que je dis ça, c'est pas anormal, c'est la caractéristique de cette fatigue-là. Et à ce moment-là, on n'aura pas besoin de travailler sur l'énergie des reins. On travaillera sur l'énergie du foie. Vous voyez, des différences, il y a plein d'autres choses comme ça. Voilà. Donc, tout ça pour dire que l'énergie des reins est extrêmement importante et l'hiver, eh bien, les poules ont raison de se coucher plus tôt. Hein? Voilà. Les marmottes ont raison de rester tranquilles. Vous voyez? Et là que nous, qui sommes assez bêtes, hein, avec un petit dé, je pense, pour vraiment ne pas tenir compte de ça. Et je pense que c'est dommage, quoi. Parce que si on regarde bien comment ça se passe dans notre société, c'est qu'on se repose l'été, alors que le soleil est à plein et qu'on pourrait travailler à plein, et dormir 4 heures par nuit, le reste du temps travailler. Hein. Là, on se repose, on prend des vacances, on va. À partir du mois de septembre, là, on passe des journées folles, avec plein de réunions, plein de trucs, tard le soir et tout. On est contre nature. On va complètement à contre-courant de cet environnement. Alors, est-ce que vous trouvez pas normal de tomber malade? Hein? Puisque on va à contre-courant de cet environnement. Donc à un moment donné, à force de lutter, de dépenser, on dépense son énergie, ben, aux alentours de la fin décembre et janvier, là, il va se passer plein de petits trucs. Il va se passer des grippes, des gastro, des tas de trucs. Ben, c'est normal. Hein? On obtient ce qu'on a semé. Voilà. Et pourquoi? Parce qu'on n'a pas su conserver, on n'a pas su équilibrer notre énergie. Donc vous voyez, bon, après des virus, il y a des tas de choses qui existent, mais les virus ne surviennent pas n'importe comment, ils surviennent sur un organisme faible. Un virus qui arrive, si on a un organisme bien, bien solide, le virus, il va dire, oh, c'est pas pour moi, ça se repart. Hein? Donc, voilà. Hein? C'est... Le virus va donner une pathologie sur un terrain faible. Il ne donnera pas une pathologie sur un terrain fort. Donc ça, c'est pour les pathologies. Alors, je vais en venir à l'alimentation, l'alimentation donc, de l'hiver et donc du rein. Je vous ai fait sortir des feuilles, là. Et sur un côté, il y a les saveurs des aliments, et sur l'autre, il y a les natures. Parce que en diététique chinoise, on se base sur les saveurs et les natures. Alors, quand on parle de saveurs, on peut avoir par exemple, si je parle de saveurs salées, c'est pas forcément que l'on va sentir le goût du sel. Hein? Il y a des aliments que l'on va ressentir, on va dire oui, ça, il est salé celui-là, et d'autres aliments, on ne pensera pas qu'ils sont salés, mais ils auront une action comme les autres aliments salés. Voilà. Et alors ça, ce sont des observations, c'est pareil, ça a été observé. Hein, c'est pas quelque chose qui est venu comme ça, une élucubration, c'est quelque chose qui a été observé par les Chinois au fil du temps, et donc ils les ont codifiés, ces observations-là. Alors si je parle du sel, c'est parce que pour chaque organe, il y a une saveur qui lui convient. Et la saveur du rein, c'est la saveur salée. Alors on a plein de façons de prendre cette saveur salée, mais la première façon de la prendre, qui est très simple, c'est de tremper le doigt dans du sel, hein, on va dans du sel, et on le met sur le bout de la langue. Et on laisse cette saveur que l'on va avoir au bout de la langue, hein, on la laisse pénétrer les veines de la langue. C'est comme si vous faisiez une perfusion de sel. Hein, voilà. Ça va pénétrer tout de suite au niveau des veines de la langue, parce que la langue, c'est vraiment très, très, très intéressant pour le saveur, pour pénétrer dans le sang. C'est le principe des remèdes homéopathiques, c'est le principe de tout ce qu'on prend par voie perlinguale, on appelle ça. Hein. C'est-à-dire qu'on laisse un peu dans la bouche pour que ça pénètre les veines. Et ça va tout de suite stimuler l'énergie du rein. La saveur salée va stimuler l'énergie du rein. Donc ça, cette saveur, elle est à prendre à l'heure du rein. C'est-à-dire entre 18h et 20h actuelles. Hein? C'est-à-dire au moment du dîner, quoi. C'est pas compliqué. Et ça se prend avant de commencer à mettre quelque chose dans la bouche. Hein? Il faut commencer par mettre la saveur, ensuite on peut manger. Donc on met la saveur, on attend juste le temps que cette saveur, on le sent bien quand ça passe au niveau du sang, ça se sent bien. Hein, et puis tout de suite on peut manger. Hein, ça ne va pas demander 10 minutes, c'est immédiat. Une fois que la saveur est pénétrée. Donc ça, tous les jours, ça va stimuler. Et ça, je vous conseille, puisque cette année, on a un manque de froid. Hein, on aura eu un manque de froid en hiver, même si en février, il se met à faire froid, parce que là, il ne sera plus en hiver. Souvenez-vous, début 2012, ça a été un peu pareil. Le froid est arrivé le 5 février en 2012. Il a duré 15 jours, quelque chose comme ça, un froid intense. Mais on était au printemps. Ça n'a pas rechargé les reins. Là, on a un petit peu de froid, profitez-en, si demain matin il fait froid, vous allez prendre de froid, hein, pour que vraiment les reins se rechargent. On a encore des possibilités. Mais malgré tout, on a perdu du temps. Hein. Il y a quand même, on a toute une période où il n'y en a pas eu. Donc, je vous conseille de prendre cette chaleur salée avant le dîner, pour régulièrement entretenir cette énergie du rein, qui spontanément ne se sera pas remonté dans l'hiver. Et ça, c'est à faire juste à l'hiver prochain. Autrement, à un moment donné, vous allez vous retrouver avec une ostéoporose, avec tout ce que j'ai décrit tout à l'heure, là, qui pose quand même problème. Des fois, on oublie de l'origine, mais le jour où ça nous tombe sur le nez, on aime tant quand même. Hein. Donc ça, pour cette saveur salée. Alors maintenant, il y a des aliments qui ont la saveur salée. Alors, vous avez une colonne. Il n'y en a pas beaucoup, hein. Il n'y en a pas beaucoup de ces aliments qui ont une saveur salée. Donc vous voyez, c'est la colonne de droite sur le papier, hein. Donc en légumes, à part l'endive, il n'y en a pas d'autres. Hein. Les endives ont la saveur salée. Et ça tombe bien, parce que l'endive est un légume d'hiver. Hein? Donc vous voyez, c'est pas non plus pour rien que... en légumineuse, les pois chiches. C'est pas forcément quelque chose qu'on mange facilement chez nous, c'est pas tout à fait notre culture, mais on peut en prendre de temps en temps. Dans les céréales, l'avoine et l'orge. Donc l'avoine et l'orge, donc par exemple, prendre des flocons d'avoine le matin, c'est pas mal, ou rajouter un peu de flocons d'avoine dans le potage, vous voyez, des choses simples, hein. Bon, l'orge, c'est pareil. Dans les produits animaux, bon, vraiment, on peut mieux comprendre que le crabe, la crevette, l'huître, la moule, le lait, le poule, que la fesse soient salées puisqu'ils viennent de la mer. Hein? Voilà. L'escargot, c'est, appartient au salé aussi, saveur salée. Alors, le jambon, c'est le jambon de campagne. Hein? Voilà. Le pigeon, le porc, dans une façon générale, c'est une saveur salée. Et bien sûr, le sel. Hein? Le sel qui a donc cette saveur salée. Donc c'est important de pouvoir insister un petit peu sur ces aliments-là. Parce que la saveur va jouer quand même... un grand rôle sur les aliments. La saveur nourrit vraiment l'organe, elle permet aux reins d'être beaucoup plus toniques. Alors maintenant, on peut aussi se servir de la nature, de l'aliment. La nature, c'est quelque chose de beaucoup, d'un peu différent. La nature, c'est la fonction de savoir si un aliment est plutôt chaud ou plutôt froid. Alors évidemment, si vous faites chauffer un aliment, vous allez dire il est chaud. Hein? Mais il y a des aliments que l'on peut manger froid et qui ont une nature chaude. Et c'est là où c'est l'observation aussi qui va nous la donner. Donc vous allez avoir aussi ces aliments, vous voyez, mais la nature chaude. Alors l'hiver, il faut la nature chaude. Car l'hiver, le froid, il rentre à l'intérieur du corps. Et nous, en médecine chinoise, on prend, pour les personnes qui connaissent, on palpe le pouls. Hein, on palpe le pouls, les pouls même, puisqu'on en a six de chaque côté, vous voyez. Hein? On a 6 poux à droite, 6 poux à gauche. Et ils sont différents. Et ces poux, en hiver, ils sont très profonds. Vous pouvez vous prendre le poux, vous verrez, le poux, il n'est pas en surface normalement en hiver. Hein? Il est profond. Pourquoi? Parce que l'énergie, elle rentre. Elle est à l'intérieur du corps. Si vous avez un pouls très superficiel, très en surface, c'est-à-dire un pouls dès que vous posez les doigts et... ça, c'est un pouls d'été. Parce que l'énergie d'été, elle est à la surface. C'est la chaleur qui fait sortir. Hein. Et tout ça pour dire que l'hiver, l'énergie est rentrée à l'intérieur. Donc on est rentré à l'intérieur de soi. Pour ça que les poules dorment à ce moment-là, elles rentrent. Hein. Voilà, on rentre à l'intérieur de soi. Donc on a besoin d'hiberner. Ça, c'est tout à fait normal. Et donc, cette entrée de l'énergie à l'intérieur, on la traite, parce que c'est en même temps un froid qui peut pénétrer ici. Hein. Et bien, on va la traiter par la nature de l'aliment. Donc, la nature de l'aliment, il faut que ce soit un aliment plutôt chaud, ou voire tiède, hein, mais plutôt chaud. Et donc les aliments chauds, ben, vous voyez qu'il n'y en a pas beaucoup. À part le poivron qui est un légume qui est chaud, et mais autrement il n'y en a pas. Autrement vous avez le gingembre, le piment et le poivre. C'est pas beaucoup. Par contre, dans les aliments tièdes, vous en avez un certain nombre, bon, je ne vais pas les énumérer, il y en a pas mal. Mais vous voyez qu'il y en a pas mal dans les légumes. Vous en avez aussi dans les céréales, hein, vous avez dans les céréales en particulier, vous avez le riz. Hein. Dans les fruits, vous en avez pas mal. Dans les produits animaux, et dans les divers aussi, vous avez le café, la cannelle, le coriandre, le vinaigre, le sucre roux, hein, la sauge, la nette, l'isop. Donc tout ça sont de tièdes. Donc l'hiver, on a besoin de ces aliments-là, hein, qui sont à la fois, qui sont chauds ou tièdes, pour alimenter, bien sûr, l'énergie des reins. Donc vous voyez, on a besoin d'aliments avec une saveur salée, et on a aussi besoin d'aliments tièdes ou chauds. Maintenant, quand ce qui peut se produire cette année, puisque le rein ne refait pas son énergie normale, eh bien à ce moment-là, on va se retrouver avec des manques en profondeur. Hein. C'est-à-dire que l'énergie interne, l'énergie interne va être en manque. Donc, ce manque, ça va être quoi? Ça va être un manque de réchauffement de l'intérieur. Donc, ce qui fait que la personne va ressentir un froid un peu perpétuel, un peu permanent. Elle aura du mal à se réchauffer. Et plus ce froid va être intense, plus la personne dira « ben moi j'ai froid aux os hein? ». J'ai tellement froid à l'intérieur que j'ai froid aux os. Ça, c'est vraiment un manque d'énergie des reins, très important. Et à ce moment-là, au niveau des saveurs, on va rajouter une autre saveur qui va aider un peu plus que la saveur salée, c'est la saveur piquante et la saveur douce. Le piquant va stimuler beaucoup plus, et la saveur douce aussi. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi ces deux saveurs qui n'appartiennent pas à l'énergie des reins vont permettre aux reins d'être mieux? Alors là, il faut qu'on se réfère à la théorie des cinq éléments. Vous savez, les cinq éléments qui se succèdent, il y a le foie, le cœur, le rat de pancréas, le poumon et le rein. Et juste avant le rein, c'est le poumon, qui est l'organe de l'automne, on verra ça à l'automne. Hein. Et juste avant le rein, c'est le poumon. Et les Chinois ont une phrase que j'aime beaucoup. C'est l'organe qui est juste avant, il le considère comme la maman. C'est la maman de l'organe, hein, c'est la maman du fils. Le rein est considéré comme le fils, avant il y a la maman, et avant le poumon, il y a la grand-mère. Hein? La grand-mère, c'est la saveur douce, c'est le rat de pancréas, c'est le sucre. Le poumon, c'est la saveur piquante. Et donc après, il y a le fils. Le fils, il n'est pas bien. Quand vos enfants vont pas bien, puisque la maman, elle a un grand rôle. Mais la grand-mère, si elle est là, elle a aussi un grand rôle. Hein? Et donc, voilà. Donc on va se servir de la saveur douce, de la grand-mère, de la saveur piquante, de la maman, pour alimenter, pour aider le fils qui lui est dans le pétrin. Hein? Voilà. C'est juste ce mécanisme-là qui est un peu particulier. Et on peut trouver que c'est un peu des vibrations. Mais je vous assure que quand dans un traitement, par exemple, on va se servir des points correspondants à la maman et à la grand-mère, eh bien, je vous assure que c'est très puissant. Et on recharge bien l'énergie à ce moment-là de façon forte. Voilà. Donc, parce que dans les traitements, on a aussi, on suit le même cheminement. Voilà. Donc, vous voyez le rôle de ces saveurs-là. Donc, quand quelqu'un est, pour prendre un exemple précis, quelqu'un qui est totalement épuisé, qui est vraiment fatigué au possible, il ne peut plus se traîner, il n'est pas bien, voilà, en ce moment, hein, à l'intérieur de lui-même, il ressent du froid, il a du mal à se réchauffer, il n'est pas bien. Et si la personne ne peut pas se réchauffer en particulier la nuit, elle ne peut pas dormir. Alors on va beau mettre des bougettes, c'est tout ce qu'on veut, hein, c'est un moment où ça ne va pas, quoi. Eh bien, on a besoin à ce moment-là de tonifier, hein, quelqu'un qui est très 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 fatigué en ce moment, eh bien il faut lui absolument lui indiquer ces saveurs-là. C'est-à-dire la saveur douce, donc si vous regardez dans les saveurs douces, hein, il y en a une quantité. Hein. La saveur douce, c'est le sucre. Tout ce qui est sucré. Hein. Mais également tout. Vous avez une quantité très importante. C'est ce qui donne vin. Et la saveur piquante, il y en a moins, mais il y en a quand même. Hein. Alors comme piquant, ce qu'on pourrait dire, ben, le poireau, c'est un piquant. Hein, le poireau, c'est un piquant, le navet, le persil est un piquant, mais enfin souvent le persil n'est pas trop. Les radis, alors radis noir. L'intérêt du radis noir, quand même, c'est que lui, il est aussi noir de peau. Et le rein, sa couleur, sont les couleurs foncées. Hein, il lui faut les couleurs foncées au rein pour se tonifier. Donc, le rein, c'est pas, on va pas, pour aider à remonter le rein, on va pas lui mettre du rouge. Hein. Le rouge, c'est du feu, c'est le cœur. Hein. Le rouge, c'est le cœur, c'est pas le rein. Bon, ça vous regarderez, c'est tout ça, c'est. Hein. C'est pour ça que je vous ai ressorti les tableaux, parce que c'est toujours intéressant de les avoir. Donc voilà pour les aliments qui sont quand même importants. Qu'est-ce que j'avais... Donc surtout cet hiver, c'est important de bien penser à ces saveurs, parce qu'on a besoin de ça. Hein. Il n'est pas encore trop tard quand même, hein. Il faut vraiment aider. Alors, voilà pour, un peu pour la description de l'hiver. Bon, je pourrais répondre à votre question pendant tout à l'heure. Hein. Mais je voulais quand même vous parler un petit peu du feng shui, parce que, bon, qui n'est pas spécialement propre à l'hiver, mais qui change selon les années. Hein, ça, c'est assez caractéristique. S'il y en a qui veulent regarder après, là j'ai l'almanach, c'est le calendrier 2013 des Chinois, hein, vous pourrez regarder dessus, parce que là on a dessus en particulier les orientations hein, des Chinois, qui sont quand même importantes. Donc je vous expliquerai tout à l'heure un petit peu comment ça fonctionne. Je vous disais tout à l'heure des orientations. Bien, les orientations, d'abord, c'est quoi le feng shui hein? Peut-être un certain nombre qui ne savent pas ce que c'est. Le feng shui, alors ça s'écrit S-E-N-G, feng, hein, c'est plus loin, shui, c'est S-H-U-I. Voilà, c'est une traduction, donc feng shui. C'est... Le feng shui, c'est comment se sentir bien dans sa maison. Mais avant de se sentir bien dans sa maison, il faut se sentir bien sur son terrain. C'est pour ça que quand on peut voir un terrain, bien regarder l'orientation du terrain, etc., voir où sont les points d'eau, enfin les courants d'eau et tout, c'est quand même important. Donc, une fois qu'on a ça, après on sait où poser la maison. Et donc on va poser la maison d'une certaine façon. Et pour toute maison, il y a une orientation particulière. L'orientation, elle est fonction de la porte d'entrée de la maison. Alors là, il faut aussi savoir où est la porte d'entrée. Parce que Il y a pas mal de maisons où on ne sait pas où est la porte d'entrée. Il y a la porte d'usage, il y a la porte où le facteur rentre, il y a la porte où les amis rentrent. Hein. C'est pas toujours la même porte. Alors ça, c'est quelquefois à discuter et c'est pas simple. Hein. Il faut que ce soit la porte par laquelle il y ait le plus de monde possible qui rentre. Voilà. Alors, j'ai vu autre chose, il n'y a pas longtemps, on n'a toujours pas réglé le problème dans cette maison. On ne sait pas où est la porte d'entrée. Hein. Et ça, parce que après, dans le travail au niveau de la maison, il est tout à fait différent. Hein. Alors, on regarde au niveau de la porte d'entrée, alors le feng shui, c'est avec une boussole. Hein, c'est pas comme ça, voilà, on prend une boussole et on regarde, on se met à la porte d'entrée, supposons que ce soit ma boussole, voilà, ma boussole est là, donc je me mets devant la porte d'entrée, enfin dehors, devant la porte d'entrée, et je regarde l'axe de pénétration dans la maison, comment l'énergie pénètre dans la maison. Donc ça me détermine un degré d'angle qui va de 0 à 360 degrés. Hein, et en fonction de ce degré d'angle, je sais à ce moment-là si c'est une catégorie de maison. Il y a 8 catégories de maisons différentes. Il y a 4 catégories qui sont ce que l'on appelle les maisons de l'Est et 4 catégories qui sont les maisons de l'Ouest. Et souvent on confond, et je ne sais pas, hein, pas plus tard que ces jours, on confond l'Est et l'Ouest, c'est pas la même chose que si la maison regarde à l'Est ou si la maison regarde à l'Ouest. Hein, c'est pas ça. Donc on a besoin de bien savoir en fonction de l'axe de pénétration dans la maison. Et en fonction de cet axe, donc, on sait si c'est une maison de l'Est ou une maison de l'Ouest. Et ça, c'est important. Pourquoi? Parce que chacun de nous, en fonction de l'énergie que l'on a eue à la naissance, chacun de nous va être à l'aise dans un type de maison. Soit à l'Est, soit une maison de l'Est, soit une maison de l'Ouest. Et croyez-moi, c'est pas si idiot que ça, parce que moi j'ai vu un certain nombre de fois des personnes, quand elles rentraient dans une maison, elles venaient d'acheter une maison, elles rentraient dans leur maison, et elles étaient mal dans leur maison. Elles étaient mal, elles allaient toujours mal, les maladies se succédaient, il y avait plein de choses, et elles étaient toujours fatiguées, il y avait toujours des problèmes. Quand elles allaient vivre dans une autre maison, elles étaient bien. Donc, ça montrait bien qu'il y avait des choses comme ça. Hein. Et le pire que j'ai vu, c'est une dame qui avait perdu son mari et qui vend sa maison, quelqu'un de la région, là, qui vend sa maison. Et puis, elle me dit, j'ai acheté une maison, comme ça, il y a vraiment tout ce qu'il faut dans cette maison, c'est vraiment bien, et ça a été un coup de cœur, etc. Dès qu'elle a eu habité la maison, elle revient me voir, et elle me dit, ah, je vends la maison. Elle y a été 2 mois dans la maison. Elle a vendu la maison, elle ne pouvait plus dormir devant la maison, elle était mal conçue. Et elle ne correspondait pas du tout à elle. Bon, j'ai étudié quand même, pour savoir un peu. Voilà, ne correspondait pas du tout à elle. C'est-à-dire que chacun de nous, hein, chacun de nous, on, de notre naissance, on est soit de l'Est, soit de l'Ouest. Si on est de l'Est et qu'on achète une maison de l'Ouest, on va toujours être en contradiction avec l'énergie entrée dans la maison. Donc on va lutter en permanence dans cette maison. Et si on lutte dans une maison contre quelque chose qu'on n'arrive pas à comprendre, je crois qu'il vaut mieux aller ailleurs, quoi. Hein? Donc vous voyez que c'est quand même assez important, ça. Et ça, bon, pour ça, il faut déterminer au niveau de notre tempérament, etc. Il faut déterminer ce que l'on est, si on est de l'Ouest ou de l'Est. Donc ça, les Chinois nous permettent de faire ça, et ça c'est intéressant. Parce qu'après, une fois qu'on a bien déterminé ça, bon voilà, on est en accord. Alors la difficulté, c'est dans un couple quand même. Hein? La difficulté, c'est dans un couple. Alors après, quand il y en a un qui est ce qu'on appelle ça Ming de l'Est ou Ming de l'Ouest. Un min, c'est naissance. Hein. C'est le terme chinois qui veut dire naissance, min. Alors, si le mari est min de l'est, par exemple, la femme min de l'ouest, alors quelle maison on prend? De deux choses l'une. Soit, si on ne peut pas s'entendre, si on prend vraiment une maison qui est min de l'est, hein, qui va être bien pour l'un, elle ne va pas bien pour l'autre. Donc l'autre ne va pas s'y trouver bien. Mais à ce moment-là, il faut peut-être voir au niveau des portes, justement. Parce que là, il y en a un qui passe par une porte et l'autre par une autre. Hein? Voilà. Parce que selon l'axe de pénétration de la personne, s'il y en a un qui va passer, je ne sais pas moi, par la porte de côté, puis l'autre par celle-là, hein, parce qu'il va savoir. Ça m'est arrivé avec dans des couples de leur dire, et c'est comme ça qu'ils ont résolu leurs problèmes. Hein, parce que ben, quelquefois, on a la maison, on peut pas faire autrement, voilà, c'est comme ça. On va pas démolir la maison pour. Hein. Alors, quand les deux ne sont pas mine de l'est ou mine de l'ouest, ce qui est important quand même, c'est d'essayer de déterminer quel est le chef de famille. C'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile de savoir quel est le chef de famille. Hein? Elle, ça, hein? Là. Donc voilà. Donc oui, c'est pas si simple. Hein? Parce que tout ça, c'est avant d'étudier l'intérieur de la maison après. Parce qu'après, à l'intérieur de la maison, on va étudier et savoir un peu où l'un et l'autre peuvent se situer le mieux aussi. Hein? Il y a la place de chacun, y compris la place des enfants. Donc, c'est amené à étudier aussi la place des enfants. Puisque ben, un enfant va par exemple avoir telle chambre, l'autre telle chambre. Et si ça ne correspond pas du tout à son tempérament, si un enfant peut très bien être dans une chambre qui ne correspond pas ça, du tout à ce qu'il est, et il ne sera jamais bien dans cette chambre, il sera toujours mal, il aura toujours des problèmes. Donc, c'est pas anodin au lieu de. Hein, là où on habite. Bon, ça, c'est des études un petit peu particulières, mais qui sont quand même intéressantes, parce qu'on va jusque-là au niveau de l'énergie. Alors, puisqu'on est dans les maisons, si vous avez une maison que vous voulez faire des travaux dedans, eh bien, selon les années, il y a des secteurs où on peut faire des travaux, et d'autres, il ne faut pas. Voilà. Alors, donc, je vais vous dire cette année, en 2013, puisque 2012 on s'est considéré comme fini, hein, en 2013, je vais vous donner les secteurs favorables pour faire les travaux. Ah, il n'y en a pas énormément. Alors, c'est si on divise une maison, on va la diviser en 9. C'est-à-dire qu'on on peut prendre un carré, hein. On prend un carré et puis on fait trois colonnes dedans. Hein, on fait trois colonnes et on fait un autre quadrillage dans la sens inverse pour faire donc ça va faire 3, 3, 3, 3, ça fait 9. Hein. Eh bien, ces 9 directions, hein, correspondent, il y aura un point central. Il y a un point central qui va faire un élément, donc un petit carré. On va avoir une direction au nord, une direction au sud, on va avoir l'ouest et l'est, on va avoir le nord-est et le nord-est et le nord-ouest, le sud-est et le sud-ouest. Hein? Donc on aura 8 directions plus le centre. C'est comme si on avait une maison. Et donc, vous vous baladez dans la maison, vous savez, si dans la maison, là c'est le nord, là c'est le sud, hein, là vous aurez l'est, là vous aurez l'ouest, etc. Hein. Et donc, vous allez savoir dans quelle direction on peut faire les travaux. Hein. Alors, cette année, les directions favorables, c'est, tenez-vous bien, à votre avis, le nord et le sud. Donc on a le nord et le sud, Si on a un climat trop favorable, c'est le nord-est. Toutes les autres sont défavorables. Donc nord, sud et nord-est. Hein, vous quadrillez votre maison et vous savez où les travaux peuvent se faire. Quels que soient les travaux. Voilà. Bon, si ce sont des travaux légers, hein, c'est-à-dire aménagement d'une pièce, etc., il n'y a pas de problème. Mais si vous devez casser une cloison, il vaut mieux éviter, si c'est dans le secteur défavorable. Parce que, à ce moment-là, il y aura toujours des problèmes. Hein, et ce problème, il commence au moment où on fait les travaux et il continue tout le temps. Hein, et voilà. C'est une durée. C'est dans la durée. Et c'est la même chose si on veut prendre des vacances. Si on veut prendre des vacances, on doit les prendre cette année dans ces directions-là. Ces directions-là sont favorables. Hein? Donc le nord, le sud. Le nord, le sud et le nord-est. Alors, ce qui va être un peu mieux quand même, c'est qu'il y a d'autres secteurs qui, eux, sont neutres. Hein? Voilà. Les autres secteurs qui sont neutres, là, c'est le nord-ouest, l'est. Non, le nord-ouest et l'ouest. Pardon, excusez-moi. J'ai mal à traduire le chinois. Donc le nord-ouest et l'ouest sont neutres. Donc je répète, ce qui est favorable, il y a le nord, le nord-est et le sud. Hein? Et neutre, vous allez avoir le nord-ouest et l'ouest. Donc ça donne quand même des endroits où on peut aller en vacances. Hein? Ce qui est important, c'est qu'on va aller en vacances, mais quand même pouvoir bénéficier d'un repos, de refaire son énergie, etc. Si on doit aller en vacances et ne pas avoir l'énergie suffisante, c'est pas la peine. Hein? Voilà. Mais également, si vous êtes fatigué, par exemple, vous pouvez partager votre maison, vous repérez dans votre maison et vous allez vous reposer dans un secteur favorable. Ça va, vous saisissez là, hein? Après, si vous allez vous reposer dans un secteur défavorable, vous allez lutter contre une énergie. Et vous êtes déjà fatigué, c'est pas la peine. Vous allez vous sortir de ce repos plus fatigué que vous y êtes rentré. Donc vous pouvez regarder un petit peu comment, ainsi, voilà comment les Chinois le notent. Hein. Bon, j'ai fait quelques petits commentaires à côté, là, mais voilà. Hein. Ça c'est le nord, ça c'est le sud. Et ici c'est l'ouest, et là c'est l'est. Voilà. C'est pareil. Ah ben, il ne faut pas changer l'entrée. Hein. Dans un appartement, il ne peut pas changer l'entrée. Mais après, il y a des compensations qu'on peut faire dans les appartements. Le point central, il est toujours favorable. L'emplacement du lit. Alors, l'emplacement du lit dépend justement de l'énergie des personnes. On dit quelquefois que l'emplacement d'un lit, il faut avoir la tête au nord. Là. Non, c'est pas ça. Hein, ça dépend de l'énergie des personnes. Ça. Donc je ne peux pas vous dire l'emplacement du lit comme ça. Il faut déterminer l'énergie de la personne avant. Si quelqu'un a une énergie, par exemple, très très forte et tout dans sa tête, il vaut mieux qu'il soit au nord. Parce que là, ça va le calmer. Hein? Par contre, si son lit, si la tête du lit est à l'est, est au sud, ça va encore en rajouter. Donc il aura du mal à dormir. Mais quand on est deux dans le lit, c'est quelquefois un peu dur, parce qu'on n'a pas les mêmes tempéraments. Hein? Alors. Mais c'est vrai qu'on, en feng shui, on est amené à jongler au niveau de la place du lit, hein, par rapport à des tas de choses. Hein. Ce qui joue énormément, bon, ça joue pas trop dans les maisons neuves, mais dans les maisons anciennes, les poutres. On ne doit pas dormir sous une poutre. Hein? On ne doit pas dormir sous une poutre. Et c'était la raison, enfin, une des raisons, pour laquelle il y avait des chaises de lit. Oui, c'est-à-dire qu'il y avait des rideaux, hein, et des lits à baldaquin. Hein, c'était une des raisons. Ça permettait d'être dans une pièce avec des poutres dans tous les sens, mais il y avait un voilage, il y avait un ciel de lit, il y avait, voilà. Vous voyez? Et si vous avez des poutres dans votre chambre, eh bien, vous mettez un voilage, c'est tout. Hein? C'est pas compliqué. Même qu'on ne doit pas dans une chambre, tout ça c'est du feng shui. Dans une chambre, on ne doit pas avoir un miroir. Vous savez, les armoires à glace, là, une armoire à glace qui est face à vous, là, c'est mauvais. Donc, il faut mettre un voile dessus. Comment? Bien sûr, le bain, il faut fermer, quoi. Il faut fermer le volet. Ben une télé d'abord, ça ne devrait jamais être dans une chambre. Hein, dans une chambre, on ne devrait avoir aucun appareil électrique. C'est pas compliqué. Hein, parce que tout à l'heure, Alain parlait des ondes électromagnétiques, mais alors ça, on en est quand même tellement infesté partout que c'est quand même un peu un problème, quoi. Hein? Ben oui, ça, hein, c'est la même chose. Mais on ne devrait pas, alors le téléphone portable il n'est pas à mettre dans une chambre, la télé non plus, une radio, un quoi? Un micro-ondes, ben, micro-ondes, ben oui, ça... Hein? Puis, je sais pas... Donc la télé, si vous avez une télé qui ne peut pas bouger, par exemple, bon, ben, vous mettez un voile dessus, c'est bon, hein. On n'a pas besoin de tous ces écrans et tout ça. Vous savez, les radios réveils, c'est mauvais, hein. Les radios réveils, c'est mauvais. Parce que c'est aussi électrique. Ça dégage les ondes électromagnétiques. Les lits, oui, bah oui, les lits électriques, c'est pas l'idéal non plus. Hein. C'est-à-dire que le lit électrique, ce qu'il faut faire, c'est le mettre à la bonne hauteur, bien comme il faut, et puis on débranche. Hein? Voilà. Alors je ne vais pas vous empêcher de prendre des vacances quand même. Hein? Donc vous voyez qu'il y a quand même des possibilités au niveau des vacances. Mais si vous voulez bien vous reposer, il faut essayer de suivre cette direction, parce qu'on a beaucoup plus de chances de revenir en pleine forme. Hein? J'explique aussi pourquoi certaines années, si vous êtes en prenant des vacances, vous avez pris des vacances, par exemple, dans le même lieu que d'habitude, et en revenant, vous dites, cette année, c'est pas bien. Ah, mais voilà, parce que c'est pas la bonne direction pour l'année. L'année 2012, par exemple, l'année 2012, les directions qui étaient bonnes, c'était l'ouest, le sud et le nord-est. Hein? L'ouest, le sud et le nord-ouest. Mais le nord n'était pas bon. Et l'est non plus. Ça change tous les ans, hein. Et ça, les Chinois le disent tous les ans, ils disent, bon, même qu'ils éditent le calendrier des jours favorables et défavorables, pareil, il est dessus là, hein, vous pourrez le regarder, c'est dans les dernières pages. Enfin, c'est tout en chinois quand même. Hein? C'est dans les dernières pages, mais ça se lit de ça se lit à l'envers de nous, hein, les livres chinois. C'est-à-dire que c'est, par rapport à un livre, à nos livres à nous, c'est les premières pages pour les jours. Voilà. Bon, ben voilà, moi, ce que j'avais envie de vous dire ce soir. Ah, c'est pas facile à gérer, hein. Il faut, c'est une approche qu'on peut avoir. Avec ça, moi je peux vous le déterminer, mais ça, c'est après c'est quelque chose qu'on détermine en fonction de notre naissance, hein, en fonction de la date de naissance, avec l'heure de naissance et le lieu de naissance. Voilà. C'est quelque chose d'un peu particulier et qui nous donne ce qu'on appelle le bilan énergétique d'une personne. En chinois, ça s'appelle Bazhe. C'est le bilan énergétique et qui nous dit aussi, qui nous donne notre tempérament. Hein, à travers ça, on voit comment est notre tempérament. En général, je crois que c'est juste. Hein, voilà. Bon, quelquefois, des petites choses qu'on ne connaît pas bien, mais c'est quand même assez juste et ça nous donne aussi l'état de fragilité de nos organes. Parce qu'on a, on n'est pas égaux tous. Hein. Bon, pour les uns, le foie va être fragile, pour d'autres, ça va être le poumon, d'autres, le cœur, d'autres. Bon. Hein. Un organe plus qu'un autre, et ça nous permet de savoir quels sont les organes ou l'organe qui est déficient. Ça, c'est quand même intéressant. Et ça nous apporte aussi un élément, c'est la caractéristique de l'ouest ou de l'est. Pour les maisons, les terrains. Non. Oui. Oui, mais ça, c'est parce que ça, votre question est intéressante pour ça, parce que, en fait, les huit maisons là dont on parle, on peut les mettre sur un cercle et en fait on inclut le nord et le sud dedans, mais ça fait partie quand même du système et on ne parle que de l'est et l'ouest. Hein? Voilà. C'est pas facile à expliquer ce système là. Mais si on prend, si on fait un cercle et qu'on prend, on va mettre les maisons, l'orientation, et à partir par exemple du nord, hein, on va avoir, mettons, au nord, on va avoir une maison orientée comme ça, hein, et plus on va aller vers l'ouest, plus la maison va être orientée comme ça. Si ensuite plus on va aller vers le sud, la maison va être orientée comme ça, et trop tard, vous voyez. C'est-à-dire qu'on tourne, et il y aura quatre maisons de chaque côté. Mon explication n'est pas très claire, parce qu'il faudrait avoir, faudrait que j'ai un tableau pour ça, pour le faire. Mais l'est et l'ouest, le sud et le nord sont inclus dedans. Hein. Mais les Chinois ne parlent, ne nous disent, c'est l'est et l'ouest. Alors il y en a qui vont être au sud, mais qui vont être quand même faire partie de l'Est, et d'autres qui vont être au Nord, qui vont faire partie de l'Ouest. Vous voyez, donc, bon, c'est compliqué, je ne peux pas vous l'expliquer là dans le détail comme ça, parce que, il faudrait faire le schéma complet pour bien positionner les maisons là. Vous voyez, bon, je comprends que vous n'ayez, que ce soit quelque chose qui vous pose question là. Hein? Parce que je ne peux pas vous donner une explication claire. Vous voyez, c'est ça. Mais sachez que les Chinois ne codifient que quatre maisons de l'Est, quatre maisons de l'Ouest. Et dans ces quatre-là, il y a du Sud et il y a du Nord. ça vous est perplexe, hein? Pardon, à part que tout le monde entende, prenez le micro, oui. Allez-y. Allez-y, reprenez-le.
Voilà. Ce que je voulais expliquer, c'est que dans une maison qui est plus orientée au sud, on entre par le sud, les pièces de vie sont plus au sud, est-ce que ça a une influence très positive, le fait d'avoir plus de lumière, plus de soleil qui rentre dans la maison, plutôt que les pièces de vie qui se trouvent, mettons, à l'ouest, en fin de journée, ou au nord?
Oui, c'est
ma question.
D'accord, je comprends ça. Pour une maison, pour être, j'aurais dû vous le dire tout à l'heure, pour être intéressante une maison, il faut que toutes les pièces de vie reçoivent le soleil toute la journée. C'est-à-dire que le soleil se lève à l'est, hein, passe au sud et se couche à l'ouest. Et donc on peut faire le mouvement du soleil dans la maison, et l'idéal dans une maison, c'est d'avoir le sombre plutôt à l'est, au lever du soleil, les pièces de la journée de nuit plutôt au sud, et ensuite que les pièces qui reçoivent le soleil couchant soient plutôt les pièces qui ont tient moins, quoi, hein, et surtout rien au nord. Hein. Les maisons anciennes d'ailleurs étaient toujours comme ça. Hein, j'étais adossé au nord et le soleil passait, donc on recevait cette énergie du soleil toute la journée. Et les maisons actuelles, beaucoup de maisons, et c'est pour ça qu'en me promenant derrière chez moi, je regardais les maisons, il y en a dans tous les sens, hein, mais il y en a qui ne reçoivent pas le soleil. Hein. Il y en a qui ne reçoivent pas le soleil, et ça c'est dommage. Parce que le soleil, c'est quand même lui qui nous permet d'avoir une bonne énergie. Voilà. Est-ce que ça répond un peu à votre question? Bon. Voilà. D'ailleurs, j'ai une boussole qui me permet de, au niveau d'une maison, de voir le mouvement du soleil l'été et l'hiver. Parce que le mouvement du soleil et l'hiver n'est pas du tout le même. Hein, vous l'avez observé des fois. Si je me mets comme ça, là, voilà, le mouvement du soleil en ce moment, il est comme ça. Il se lève là, à l'est, en face moi c'est le sud, ici c'est l'ouest. Voilà. L'été, le soleil, il va faire ça. Hein? Il va se lever là, beaucoup plus loin, il va passer au sud, bien sûr, et il va se coucher beaucoup plus loin aussi. Donc le soleil va pénétrer beaucoup plus profondément. Et ça, il faut en tenir compte dans une construction. Il faut aussi que ça soit valable pour l'hiver. Hein. Quand on a la chance de pouvoir construire une maison, il faut aussi que ça puisse servir ça. Hein. Il faut, parce que l'hiver, si on peut avoir le soleil qui pénètre, c'est quand même pas mal. L'été, souvent, on peut lutter un peu contre le soleil, mais l'hiver, il faut pouvoir en bénéficier. Donc c'est ce mouvement du soleil qui est quand même très intéressant dans une maison. Alors, au nord, bon, on va mettre la salle de bain, les WC, le garage, hein, hein, mais pas les pièces de vie. Oui. Attends. Utilisez le micro qui parlait bien devant.
Donner des directions pour faire des travaux dans la maison, mais s'il y a également des périodes favorables en 2013 pour faire des travaux dans la maison.
Ah, le mieux c'est de commencer des jours favorables. Hein, le jour du début des travaux, il vaut mieux qu'il soit favorable. Alors ça, il faut se répertorier au calendrier, là. Il y a des jours favorables et des jours défavorables. Alors, c'est... que l'on décrit comme jours favorables et défavorables, c'est les jours où on fait, où on signe quelque chose, hein, surtout. C'est les jours où on va signer, mettons un devis, ou l'achat de quelque chose, enfin bon, voilà. Ces jours-là, il vaut mieux pas le faire un jour défavorable. Et vous savez, les Chinois, ils s'en sortent toujours de ça. Il y a quelques années, j'avais eu l'occasion, c'est une petite histoire, mais de voir un chef d'entreprise qui avait accompagné une délégation ministérielle en Chine pour faire des contrats, de travail des contrats. Donc c'était une grosse entreprise. Et il m'a dit, il faut que je vous demande quelque chose, il y a quelque chose que je n'ai pas compris dans le comportement des Chinois. J'ai dit, écoutez, si je peux vous répondre, mais je ne connais pas tout. Il m'a dit, voilà, on était en train de conclure, on était en train de signer les contrats, et tout était prêt, voilà, mais à ce moment-là, les Chinois en face nous ont dit, ah non, pas aujourd'hui. Alors ils ont dit, mais pas aujourd'hui, non, pas aujourd'hui, revenez demain. Les Chinois, quand ils disent des trucs, ils ne donnent aucune explication. Hein, aucune. Bon. Elle dit, vous savez, ce qu'on a fait toute la nuit avec mes collaborateurs, on a repris tous les contrats, on a regardé, on a dit, mais pourtant, voilà. Ils ont dit, il y a quelque chose qui ne va pas dans le contrat. Voilà. Bon. Ils n'ont rien trouvé vraiment. Ils sont venus le lendemain, ils disent, bon, qu'est-ce qui va se passer, on ne sait pas quoi. C'est fichu. Ils y trouvaient leur contrat pourtant. Le lendemain, ils sont arrivés. Les Chinois ont pris le crayon, ils ont signé, ils n'ont rien dit. Alors, ils disent, écoutez, moi, je peux vous donner une explication, vous me donnez la date, je vais vous donner la date. Le jour où vous avez retrouvé de signer, c'était un jour très défavorable. Ça voulait dire que les Chinois voulaient que ce contrat aboutisse. Ils voulaient qu'il fonctionne, ce contrat. Si vous n'avez pas voulu qu'il fonctionne, ils auraient signé. À ce moment-là, ils auraient eu des déboires, des problèmes. Et bon, ils voulaient que ça fonctionne, ils sont venus le lendemain, ils sont, voilà. Tout ça, ils s'en servent. Ils s'en servent aussi pour les mariages. Hein, se marier un jour défavorable, c'est pas une bonne idée. Sauf si on veut que le mariage soit un faux bébé. Hein. Je pense qu'il y a une catégorie de personnes, il y a une catégorie de gens qui se servent de toutes ces notions, mais il y en a aussi qui ne s'en servent pas. C'est ancestral aussi, hein. Voilà. Oui. Non. Alors, il y a un certain nombre de règles qu'on connaît, il y en a d'autres qu'on ne connaît pas. Il y a des règles d'abord des éclipses. Éclipses de lune, éclipses du soleil, etc. Les solstices, les équinoxes, tout ça, ça rentre dedans. Les nouvelles lunes, et chaque phase de la lune. Donc, il y a toutes les études qui sont faites. Alors, ça, celle-là, on les connaît. Il y a aussi les caractéristiques de l'année, parce que chaque année, il y a des caractéristiques, l'année 2012 était une année avec trop d'humidité, mais ça jouait sur les jours défavorables. L'année 2013 est une année à feu vide, donc ça va jouer sur les jours défavorables aussi. Enfin, vous voyez, il y a tout un mécanisme qui existe, bon, qui est quand même complexe, mais il y a des éléments qu'on ne connaît pas. Et c'est pour ça que même sur le calendrier, là, il y a certains jours, on ne sait pas pourquoi ils les ont mis comme ça. Ah oui, ça vous explique au Qigong. L'année assez vite, c'est une année où l'énergie du feu va avoir du mal à se manifester. Le feu, c'est le soleil, c'est l'énergie du cœur aussi, hein. C'est l'énergie de l'été. Donc, si ce feu n'est pas suffisant, hein, en fait, c'est le soleil, un peu le soleil voilé, quoi, en fait. Hein, voilà. C'est-à-dire que cette énergie sera pas forte. Hein. Donc, si cette énergie du feu est insuffisante, c'est le froid qui va monter. Donc, on risque d'avoir de longues périodes de froid. Non. Non, non, parce que les Chinois ont étudié tout ça que dans l'hémisphère nord. Hein? Donc on ne peut pas l'appliquer à l'hémisphère sud. Ça, c'est tout l'hémisphère nord, par contre, ça fonctionne. Comment?
Les maisons qui sont construites en angle.
En angle.
En L.
En L, oui. Après, c'est compliqué.
Comment vous faites pour calculer les chances de la maison?
Ça, c'est compliqué. Il faut considérer, pour trouver le centre, le point central de la maison, il faut absolument regarder les éléments manquants. Parce que dans un L, une maison construite en L, il y a des éléments manquants. Donc, il faut faire des calculs et bien regarder les éléments manquants. Et ça, c'est pas facile. Hein. Et quand on a beaucoup de peine à... Quelquefois, on a beaucoup de mal à trouver le point central de la maison. Hein. Alors, moi, il y a un truc que l'on fait, c'est-à-dire qu'on découpe un carton de la taille de la maison. Enfin, la taille de la maison, pas la maison construite, hein, mais du plan, hein, à l'échelle. On découpe un carton et on prend un crayon de vous et on regarde l'équilibre de la maison. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'un petit peu compliqué à faire, c'est du bricolage un peu, hein, et qui nous permet de voir, alors il faut que la maison soit en équilibre. Et donc ça nous donne le point central à ce moment-là. C'est un truc. Hein? Comment? Mais c'est pas facile, ça. Hein. Par le calcul, c'est pas facile. Hein.
Oui, si j'ai bien compris, il semble que le jour et l'heure de notre naissance...
Par les plus proches.
Le jour et l'heure de notre naissance a une influence sur notre santé.
Oui.
Et on ne choisit pas cette date, c'est ça?
Non.
Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est exact ce que je viens de dire, là.
Oui.
Que l'heure et le jour.
Oui. Et le mois et l'année. Et le lieu. Mais un enfant, au moment où il naît, il a décidé de naître. Il a décidé de naître. Et alors, ça, dans tous les textes chinois, on le retrouve, ça. C'est-à-dire qu'il a vraiment décidé de naître, même si l'accouchement a été provoqué. Hein. Un accouchement provoqué, l'enfant, il naît au moment où il a quand même décidé d'apparaître. Et il dit, c'est moi, c'est le moi-je, hein, c'est le soi qui arrive là. Il dit, là, c'est moi, c'est pas un autre. Hein. Ça, c'est quand même quelque chose d'important. Voyez. Et donc, ça nous donne des indications. En fait, notre énergie, elle est en deux parties, notre énergie. On a l'énergie que l'on a à la naissance, et on a l'énergie que l'on a à la conception. À la conception, on a aussi une énergie que les Chinois appellent l'énergie des origines, qui est en rapport avec l'énergie de nos deux parents. Hein? Nos deux parents se rencontrent et vont nous donner l'énergie des origines. On parle souvent au Qigong de l'énergie des origines. Hein? Et cette énergie des origines, on l'épuise régulièrement, on la consomme petit à petit. Et c'est elle qui disparaît au moment de notre mort. Quand on dit d'une personne, par exemple, elle est en train de s'éteindre, Hein, c'est comme une bougie, comme une flamme qui s'éteint. Un certain nombre de personnes âgées, on les voit partir comme ça. C'est beau d'ailleurs de pouvoir partir comme ça. Et bien, ce qu'elles ont consommé, là, jusqu'à la dernière goutte d'énergie des origines. Et ensuite, on a l'énergie de la naissance, qui, elle, est une énergie nourricière. Hein, et que l'on peut... Alors, l'énergie des origines, on ne peut pas la modifier, elle. On ne peut absolument pas la modifier. C'est ce qui fait que certaines personnes, par exemple, sont des fatigués de naissance. Hein, parce que leurs parents leur ont donné ce qu'ils ont pu. Hein, voilà. Mais... l'énergie de la naissance, elle, par contre, c'est une énergie que l'on peut modifier. C'est pour ça qu'on essaie de savoir comment elle est, cette énergie des origines, pour savoir comment elle peut revenir dessus. Par l'alimentation, par le feng shui, par l'acupuncture, voilà. Hein, par le qigong, parce que c'est, pour les Chinois, c'est le qigong qui est le plus important au niveau technique en médecine. Avant, bien avant l'acupuncture, bien avant tout le reste, c'est le qigong. C'est pour ça que j'y tiens. Oui. Les aliments secs, par exemple des céréales. Ah oui. Ah oui, oui, oui. Mais un fruit, on a tout intérêt à le manger frais, hein, à condition qu'il soit frais, de saison, de pays aussi. Il ne sert à rien de manger un aliment qui vient de perfect, hein, parce que il n'y a pas l'énergie ici. Pour manger, ça fait plaisir. Mais il n'a pas l'énergie de la saison et du pays. Hein. Et un aliment sec, un fruit sec, il va avoir une concentration, il va quand même lui procurer une énergie forte malgré tout. Hein. Par exemple, le gingembre. Hein, le gingembre, on peut l'avoir, le gingembre confit. Hein. On peut l'avoir en poudre, mais on peut l'avoir frais, ici, que l'on râpe. Et il n'apporte pas du tout la même saveur en râpé ou en poudre. Hein. Bon, le gingembre confit, moi je le prescris souvent parce qu'il est facile à utiliser. Hein, le gingembre confit. Il redonne de l'énergie, en plus, une énergie forte. Donc c'est quand même intéressant. Donc voilà. Mais les fruits secs sont beaucoup plus concentrés en énergie. Oui. Une alimentation de qualité et de proximité, c'est une alimentation avec le moins possible de produits de traitement. Oui. Ben oui, mais je pense que ça, ce sont des fruits, on peut en manger, on se fait plaisir, voilà, mais sur le plan énergie, ça ne nous apporte pas grand chose. Hein, une banane ou une orange, c'est pas chez nous. On n'aura pas du tout l'énergie comme on a avec une pomme qui vient de la bâtie. Même si la pomme est traitée. Hein? Bon, après, il faut aussi faire part des choses. Hein. Moins c'est traité, mais ça vaut quand même. La pomme, chez nous c'est la pomme, voilà, et c'est le seul fruit, comment ? Ah ben le kiwi, pour ceux qui cultivent, qui récoltent le kiwi, oui, c'est vrai. Mais jusque-là, on ne cueillait pas trop d'oranges. Les bananes, c'est pas pour aujourd'hui, c'est pas pour demain vraiment, peut-être pour après-demain, c'est vrai. Le vin. Le vin. Bon, ben le vin, c'est pas. C'est une boisson qui va être plutôt chaude. Hein, mais qui va quand même. Bon, on peut en prendre une quantité, mais il faut respecter, parce que bon, la pompe du foie est rapide quand même. Hein. Voilà. Pour l'endive ou la pomme. Ah oui, cru ou cuit pour ces deux. Et en principe, c'est les deux. Hein, on peut, que ça soit cru ou cuit, la saveur va être la même. Hein. On va obtenir le même rendement énergétique. Hein, c'est un peu faux comme terme, mais. Hein. Oui.
C'est pas vrai. Sauf comme si, comme ça change selon les années. Est-ce que certains qui suivent les techniques réaménagent leur appartement, leur maison, chaque année en fonction des orientations favorables ou défavorables, en quelque sorte. Mettons un jour, une année, le lit à l'ouest, ou l'autre année à l'est. Bah oui. Parce qu'il semblerait que.
Oh ben non, on va pas tout changer dans une maison. C'est lorsqu'on veut faire des travaux que c'est important hein, de pouvoir faire le feng shui. Dans le feng shui, il y a aussi les couleurs, il y a les matériaux, enfin, il n'y a pas la même chose. Là, c'est un petit aperçu, mais. Hein, mais quand on fait, si on veut vraiment une pièce, refaire une pièce complètement, on a intérêt à faire le feng shui de la pièce par rapport à la maison et par rapport à soi-même. J'ai fait ça pour mon bureau, moi, par exemple. Hein, il y a intérêt à se sentir bien là où on travaille quand même. Est-ce que les couleurs ont un impact important sur l'énergie? Ah oui. Oui. Alors, tout à l'heure j'ai parlé des cinq éléments et de les couleurs sombres pour l'énergie des reins, donc c'est le sombre. Hein, c'est le foncé, là, bon, voilà, ça c'est du foncé, hein, donc l'énergie des reins, là, ça la stimule. Donc le noir, le marron, le vert foncé, le violet, ça c'est l'énergie des reins. Hein. L'énergie du poumon, c'est le blanc. Et là, quand quelqu'un est malade des poumons, il a un teint blanc. Il est blanc. L'énergie correspondant à un rat pancréas, c'est l'énergie. La couleur, c'est le jaune. C'est tout ce qui se rapproche du jaune. Hein. La couleur pour le feu, donc le cœur, c'est le rouge. Et la couleur pour le foie, c'est le vert ou le bleu clair. Voilà. Donc en fonction de ces couleurs, on peut insister sur ces couleurs. Et si on a des troubles dans différents organes, ben, on peut aussi avoir les couleurs correspondantes. De même qu'on peut mettre ces couleurs dans l'assiette aussi, quand on mange. On peut très bien faire des petites décorations, des toutes petites choses. On voit ça dans certains restaurants d'ailleurs, hein, ils rajoutent sur le bord de l'assiette un tout petit filet de confiture rouge, des petites choses, un truc vert. Et certains sont très attentifs à ça, et c'est en même temps très agréable, et ça permet en fait une harmonisation des couleurs, mais l'harmonisation de l'énergie. Oui. C'est sûr que ça a de l'importance. Hein, on a... Il y a à la fois, parce que cette circulation elle va se faire à partir de la porte d'entrée, et il faut voir toute cette circulation dans la maison, comment elle se fait, comment elle se distribue dans les différentes pièces aussi. Car si l'énergie de la maison, bon, parce que là, si on rentre dans des petits détails, mais dans une maison, après, en fonction des calculs que l'on fait, on a des secteurs favorables et des secteurs défavorables aussi. Et dans les secteurs défavorables, quand un secteur est défavorable, on va faire une compensation dans un autre secteur. Bon, c'est un petit peu particulier, c'est, par exemple, je prends juste un exemple. Si par exemple, dans une chambre, on a un risque d'incendie, qu'on peut détecter, les chinois nous disent, là, ce secteur, il est défavorable, c'est le risque d'incendie. Et ça, c'est impressionnant quand même, parce que j'ai eu le cas dans une maison où ils ont eu un incendie deux fois à partir de la même pièce. Je ne comprenais pas pourquoi. Et c'est moi, quand j'ai fait le calcul, et je ne savais pas, quand j'ai fait le calcul, et bien, c'était ce secteur-là. Donc c'est quand même assez curieux, quoi. Hein? Bon. Donc on va compenser dans un autre secteur pour que l'équilibre puisse se faire. Voilà. Donc on sectorise la maison. Bon après, on rentre dans le détail de la maison, mais c'est une chose importante. Mais c'est très très intéressant le feng shui, parce qu'on peut vraiment faire des choses et équilibrer les choses. Alors les plantes vertes, pas les plantes artificielles. Les plantes vertes, hein? Les plantes vertes dans l'eau, quoi. Enfin, où on peut mettre de l'eau pour les arroser. Alors ça, les plantes vertes nous permettent d'augmenter un des cinq éléments. Dans la théorie des cinq éléments, c'est le bois. C'est-à-dire l'élément dans lequel se situe le foie. Voilà. Alors si la personne est déjà très chargée, par exemple, en éléments de bois, donc très chargée au niveau du foie, on n'a pas intérêt à aller mettre des plantes vertes. Par contre, s'il y a une faiblesse du foie, on a intérêt à lui mettre des plantes vertes là où elle se situe le mieux. Parce que ça va l'aider, ça va augmenter son énergie du foie. Bon, là, on rentre dans des détails, mais qui sont propres à certaines maisons, bon, à certains lieux. Mais on comprend très bien quand on fait une étude feng shui que certaines personnes se sentent mal dans leur maison. Hein, elles ne sont pas bien parce que elles se tiennent dans des lieux qui ne conviennent pas, ou l'orientation n'est pas bonne, il y a plein de choses. Alors après, en fonction, on ne va pas démolir la maison. Hein. Ce qu'on va faire, on va faire des compensations, dans certains autres secteurs, on va pouvoir mettre par exemple, justement, une plante verte dans un secteur bien précis, un autre élément. Ce qui est intéressant, c'est justement de pouvoir compenser. Quand le feng shui est fait un petit peu à l'occidental, c'est fait un peu pour faire vendre des objets, la plupart du temps. Ça, c'est un peu ridicule. Les Chinois, c'est pas ça. Hein. C'est fait. Le feng shui, il est fait au contraire, pour déterminer là où c'est pas favorable, on va compensée dans un autre terme avec des sources 5 qui sont en fonction de la théorie des 5 éléments. Théorie des 5 éléments qui a été donc mise en place dans les années 500 avant Jésus-Christ, donc c'est quand même quelque chose qui a fait ses preuves. Quoi. Oui. C'est pareil. Ah ben je pense qu'un lieu de travail, c'est un lieu où on habite. Hein. Mais il faudrait que tous les lieux de travail soient étudiés en fonction. Fait. On n'en est pas là. Hein. Alors dans les écoles, c'est plus compliqué parce que vu le nombre d'enfants, c'est pas très simple hein, quand même. Au niveau des. On peut pas, là, on ne peut pas tenir compte de chacun des enfants pour pouvoir aménager et orienter. Mais par contre, dans une école, ce qui peut être intéressant, même sur un lieu de travail, c'est l'orientation de la porte d'entrée pour mieux qu'elle soit dans un secteur favorable quand même. Hein, si elle est dans un secteur favorable, c'est toute l'énergie de la maison, du bâtiment qui va être favorable. Donc déjà, on a un plus. Par contre, si la porte d'entrée est dans un secteur défavorable, une fois j'ai vu comme ça, pour vous expliquer, pour vous dire un peu si l'histoire des secteurs favorables et défavorables de la porte d'entrée, une dame qui vient me voir et qui me dit, bah, écoutez, je ne comprends pas, qui vient, elle m'a mis, et. Eh bien, j'arrive pas à le faire rentrer dans ma maison. Je ne peux pas arriver à le faire rentrer. C'est plus fort que moi. Il ne peut pas rentrer dans la maison. J'accueille à la porte, mais je ne l'autorise pas à rentrer. Elle me dit, je vais chez lui, on passe des jours, voilà, je suis chez lui, mais chez moi, c'est pas possible. Alors, je regarde ce qu'il dit son après, parce qu'on parlait de son entrée. Et en fonction du tempérament de ce monsieur, eh bien, lui, sa place dans la maison, elle était à la porte. Hein? La place de ce monsieur, elle était à la porte. Donc je lui ai dit, ben, il est au milieu de la porte, quoi. C'était, voilà. Et je lui ai dit, pas compliqué, s'il rentre, il sort. Hein? Il est fait pour rentrer et sortir, mais c'est tout. Alors, dans ce cas-là, il faut changer l'orientation de la porte. C'est ce qui fait que vous pourrez observer que dans certains magasins chinois, par exemple, hein, ou au restaurant chinois, vous avez quelquefois des portes d'entrée qui sont en biais. Hein, ils vont modifier la porte d'entrée parce qu'ils connaissent les Chinois. Hein, ils sont pas comme ça, on n'a pas l'impression, ils font des trucs, ils connaissent ça. Et ils vont changer l'orientation de la porte d'entrée parce qu'ils savent que, bon, là, il y a un enrichissement possible, alors que dans ce sens-là, il n'y en a pas. Hein? Voilà. Donc, même qu'ils vont mettre aussi un aquarium qui va apporter dans un restaurant, où il y a beaucoup de restaurants chinois, des aquariums. Parce que c'est une source de richesse. Voilà. C'est une source de richesse. Et ça leur apporte, en fait, de la richesse. Voilà. Non, c'est pas pour manger des poissons crus à l'origine.
Voilà. Est-ce qu'il y a une dernière question? Je pense à ceux qui sont loin.
Oui? Oui, moi j'en connais qui font du feng shui. Oui. Donc je pourrais vous donner des adresses, j'ai pas apporté l'adresse. Il y en a une qui est sur où est-ce que la ville vous trouve, vous le dites, je ne sais plus. Sandra Ilim. Je ne sais plus si c'est Vosro ou Rodin, enfin je pourrais vous le donner. Hein, qui me fait réfléchir, voilà, c'est spécialisé là-dedans.
Bien. Bonjour, on va remercier André, on va peut-être l'applaudir et tout, on va peut-être
Merci aussi.
Ouais, parce qu'on voit bien que tu as un puits de connaissances et que tu es intarissable sur beaucoup de sujets.
C'est beaucoup passionné.
On va en garder pour la prochaine fois. Alors, je remercie aussi la technique du foyer de l'Avien, avec François tout à l'heure, qui s'en est occupé, la location, bon, le prêt de la salle par la mairie. Merci à tous d'être venus. Est-ce que j'avais autre chose à dire aussi? J'ai oublié. Ah si, la soirée a été enregistrée normalement. Si vous voulez réécouter la conférence, je crois sur le site du foyer des Agiens. Or sur Google, vous tapez foyer des Agiens, oui. F-R-E-E. Foyer des Agiens, F-R-E-E, vous aurez tout de suite le portail du